Je vais vous inviter à prendre le texte biblique et puis ensuite on pourra mettre le PowerPoint. Mais on va commencer d'abord avec notre lecture. Je vous invite à prendre Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. C'est un passage que vous pouvez aussi retrouver dans Marc 4, 35 à 41 et aussi dans Matthieu 8, 23 à 27. Comme nous sommes dans la série de prédications dans Luc, je vais prêcher bien sûr dans Luc, mais je me suis appuyé évidemment dans les autres passages qu'on appelle des passages synoptiques. Ce sont des passages complémentaires qui nous donnent des informations sur la même histoire. Donc de temps en temps, vous me verrez partir dans Marc, je vous donnerai les références aussi, ou dans Matthieu, pour enrichir, je pense, ce texte qui a été écrit par Luc dans notre passage ce matin. Donc Luc 8, versets 22 à 25, un passage que vous connaissez bien, surtout si vous avez grandi aussi dans des familles chrétiennes, c'est une histoire que vous avez dû entendre plusieurs fois par vos parents ou à l'école du dimanche. Et vous allez voir, je me suis appuyé sur ça ce matin, sur une école du dimanche. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit « Passons de l'autre côté du lac » et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Magnifique histoire, hein ? Magnifique histoire qu'on va essayer de regarder verset après verset tranquillement, dans son contexte initial d'abord, et puis on verra s'il y a vraiment ou pas des applications aussi pour nous aujourd'hui. Le manque de foi face à la divinité de Christ. Vous savez, il y a plusieurs historiens qui ont remis en question cette histoire que nous venons de lire. Mais l'historien est limité quand il faut analyser des événements miraculeux. Il a des règles humaines qui ne peuvent pas saisir le miraculeux dans l'Écriture. C'est pour ça qu'à un moment donné, on est obligé de passer par le pas de la foi et on ne peut pas contester ou on ne peut pas parler. On ne peut plus parler en fin de compte à un moment donné. Il n'y a plus d'argument possible. C'est le pas de la foi qui va faire qu'on croit ou pas au miraculeux. Et nous sommes dans une histoire avec un miracle extraordinaire ici que nous allons voir. Alors notre histoire. Jésus vient de prêcher, peut-être la série des paraboles du semeur, c'est une possibilité, tout le monde n'est pas d'accord, mais en tout cas il vient de prêcher là durant toute une journée, et Jésus est fatigué, et du coup il va prendre l'initiative d'aller de l'autre côté du lac, c'est ce que nous dit le texte. Un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit « Passons de l'autre côté du lac ». Donc voilà, je me suis appuyé sur un livre qui s'appelle « Dans la tempête » ou « La tempête se calme ». Superbe histoire. Et du coup, j'ai construit ma prédication, pas dans mes livres de théologie au départ, mais sur ce livre-là, que j'ai trouvé très intéressant. Donc Jésus est là, il vient de prêcher et puis il dit « Allez, allons de l'autre côté du lac ». Alors c'est quoi l'autre côté du lac? On peut regarder la diapo suivante. Voilà. Donc il est possible, on ne sait pas trop où il est Jésus en fin de compte. Il est peut-être là, entre Capernaüm et Génésareth. Et ils vont prendre un bateau pour aller de l'autre côté à Gérasé, normalement, ou Gérasé, je ne sais plus comment, un petit village ici. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on lit le verset 26 de notre histoire, il est écrit « Ils abordèrent dans le pays de Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée, lorsque Jésus fut descendu à terre. » Donc ce petit verset 26 nous montre que Jésus est parti d'un point A autour de Capernaüm, sûrement parce que c'est là qu'on pense qu'il a prêché certaines paraboles ou même le sermon sur la montagne. Et puis quand il a fini cette journée de prédication, ils prennent le bateau pour aller de l'autre côté qui était moins peuplé, il y avait beaucoup moins de monde de ce côté du lac. Vous comprenez bien que Jésus ne va pas juste vouloir traverser ce point A pour aller à ce point B juste pour se reposer dans un bateau. Il va se reposer. Mais je pense qu'il a envie d'enseigner une leçon très importante à ses disciples. Une vérité fondamentale pour tout croyant encore ce matin. Je suis Dieu. Je suis Dieu. C'est la vérité fondamentale qu'on va faire ressortir ce matin dans ce texte-là. Je sais que beaucoup de prédicateurs prennent ce passage et tout de suite veulent faire des parallèles avec c'est quoi la tempête dans ma vie, tout ça, comment on va faire. On va voir ça à un moment donné. Mais le sujet principal de Jésus ici, c'est d'enseigner ses disciples à leur montrer qu'il est Dieu. Alors nous sommes dans une soirée tranquille, en Galilée, au nord. Jésus dit « Allez, on monte dans le bateau ». Le soleil est magnifique, c'est en train de se coucher tranquillement. Ils sont là, peut-être en train de manger des bonnes olives, hein, du bassin de Galiléen. Et bien, il y a des oliviers partout là qu'on peut voir justement autour. Et puis ils montent là, dans un bateau qui doit faire à peu près entre 7 mètres et 2 mètres de large. Hein, ce sont des professionnels de la pêche, hein, il ne faut pas oublier, pour la plupart des disciples. Ils montent et puis ils disent « Tiens, allez, on va faire un petit tour sympa entre amis le soir au bord, sur la mer, ça doit être sympa. Imaginez que vous allez sur le bassin d'Arcachon, vous prenez un petit bateau là, il est 20h, petit coucher de soleil, l'île aux oiseaux, vous avez votre petit repas et hop, c'est parti là. Hein, ça donne envie à tout le monde de faire ça. Vous imaginez, c'est ça la scène. Ils partent, ils vont se promener, ils vont se balader entre amis. Quand tout à coup, mes amis, une tempête arrive. Ils vont se trouver en pleine tempête. L'arrivée de la tempête, si vous regardez notre texte, elle est décrite comme soudaine. Donc ils partent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Donc ils ont sûrement fini de manger. Hein. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Ils étaient en péril. Si vous avez le mot lac et des fois mer de Galilée, parce que ce mer de Galilée peut être aussi appelé le lac de Génésaret. Donc voilà, c'est une équivalence des fois dans certains textes. Donc la tempête arrive. Ma question que je me suis posée, c'est comment se fait-il que les disciples n'ont pas vu venir cette tempête? C'est leur métier. Ce sont des hommes de la mer. Ils connaissent ce lac par cœur. La plupart d'entre eux sont nés au bord de cette mer de Galilée. Et la majorité de ces hommes, c'est leur métier. Tous les jours, ils vont sur la mer, depuis peut-être des années. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas vu venir cette tempête? Quand Jésus leur dit « Allez, on prend le bateau, on va de l'autre côté », ce n'était pas une petite trajectoire ou un petit trajet. Et ils ont dû dire « Oula, attention, les vents, l'eau, on ne va pas prendre ça ». Ils n'ont rien vu venir. Alors il y a des explications humaines, et puis ensuite on verra qu'il y a surtout une grande explication divine, mais il y a quelques explications possibles. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je l'ai trouvé dans les livres. Hein. Compte tenu de la topographie de la mer de Galilée, donc la topographie, c'est la façon comment est agencée la mer avec des comment on appelle ça, nivelés, le niveau de la mer. Une telle tempête pouvait descendre rapidement sur la mer sans qu'on la voie venir, surtout de nuit. Certains parlent d'une rencontre entre l'air frais de la Méditerranée, qui est un peu plus à l'ouest, et l'air chaud de la Syrie, ajouté à l'humidité du lac. Donc tout cela, ça pouvait faire venir des sortes une sorte de tempête que les disciples, ça, ils avaient l'habitude. Mais cette tempête-là reste quand même hors norme. Et surtout, mes amis, je crois à la souveraineté de Dieu qui est intervenue. Et Dieu est capable d'utiliser aussi des phénomènes météorologiques, hein, avec, bien sûr, derrière, un objectif. Il y a un objectif derrière tout ça. D'autres pensent ici dans cette histoire, vous pourrez lire des fois des commentaires ou des prédications, vous entendrez, d'autres pensent ici que c'est l'intervention du diable, cette tempête. Moi, je reste vigilant avec cette position, parce que rien n'appuie dans notre texte, et à la lumière de l'ensemble de l'Écriture, que le diable est maître de ça. J'aimerais voir juste deux versets avec vous, les deux prochains versets qui me confortent dans ma position, plutôt que c'est Dieu qui est maître de la nature, qui est maître de la tempête. À l'Éternel, la terre, à ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers, il a fermé sur les fleuves. Autorité de l'Éternel. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre, l'Éternel est sur les grandes eaux. Donc, je pense, et je pense que vous pensez peut-être à d'autres versets dans les psaumes, ou même on peut penser à bien sûr l'ouverture de la mer Rouge, hein, et ou même à l'histoire de Jonas, il y a d'autres histoires, où moi je crois vraiment que c'est une intervention divine, et que c'est Dieu qui avait prévu de toute éternité cette tempête-là, ce jour-là, à ce moment-là, avec ses disciples-là. Comment cette tempête est-elle décrite? Alors, dans notre passage, si on revient à notre passage, on voit que la tempête ici est décrite comme une sorte de tourbillon, ou une grande tempête de vent dans Luc. Si vous allez dans Matthieu, c'est très intéressant, ça s'appelle mégaséismos. Vous comprenez, pas besoin que je fasse trop de traductions. Un mégaséisme. Et puis Marc, lui, va parler aussi d'un tourbillon avec un grand vent. Les dégâts, qu'est-ce que ça fait cette tempête-là? Eh bien, cette tempête, on voit dans Luc, c'est le bateau qui est submergé. Dans Matthieu, c'est recouvert par des grandes vagues. Et dans Marc, c'est rempli d'eau. Le bateau est rempli d'eau. Quelles sont les conséquences de toute cette tempête? Ben, on le voit, le texte nous le dit. Ils sont en danger de mort. Hein, ils étaient en péril. Ils vont mourir. Elle est sympa, la scène. On part au début pour aller se tranquillement, manger un petit apéro sur le bord de la mer de Galilée, et ça se finit, on va mourir, quoi. Merci Jésus de vouloir passer de l'autre côté. Le langage ici, quand il dit « ils ont été vaincus ou en péril », si vous regardez dans notre texte, au verset 23, « ils étaient en péril », c'est un terme qui est assez fort, qu'on ne voit pas trop dans la langue française. C'est un langage de défaite. Ce sont des pêcheurs professionnels qui s'expriment de cette manière, donc il y a de quoi être affolé pour les disciples qui ne sont pas du métier comme Matthieu. Imaginez que vous avez quelqu'un comme Pierre qui dit « on est vaincu ». Les gars, on ne peut plus rien faire. On est vaincu. Imaginez juste la scène. Je suis avec Jacques dans la cuisine, et puis la cuisine est en train de prendre feu. Et Jacques, il me dit « il faut qu'on sorte ». Je ne vais pas jouer le malin, hein. C'est le professionnel, il connaît sa cuisine depuis des années. J'ai dit, ok, pas de souci, on ne conteste pas, on sort. Mais maintenant, si Jacques me dit, Florence, c'est fini, on est vaincu par le feu, on ne peut pas sortir de la cuisine. Vous imaginez mon angoisse, ma peur, mes craintes, autant les siennes que les miennes. C'est ce que les disciples sont en train de vivre. Autant les professionnels comme Pierre et les autres, autant des Matthieu qui étaient juste des collecteurs d'impôts et qui sont aussi embarqués sur ce bateau-là. Pendant ce temps, le maître, lui, dort. Mais eux, une angoisse terrible, une peur terrible. Plus de solution. Voilà ce que sont en train de vivre ces hommes-là. Voilà l'angoisse terrible qu'ils sont en train de vivre. Des hommes qui connaissent bien le terrain et les tempêtes, mais celle-là, elle semble incontrôlable. Un événement extérieur, j'ai noté, qui vient perturber un domaine qu'ils maîtrisent pour la plupart d'entre eux. Quand un événement extérieur vient perturber nos habitudes et notre quotidien, mes amis, ça nous secoue. Ça nous secoue. Pourtant, on pense être maître de beaucoup de situations dans des domaines de nos vies. Mais quand il y a une tempête qui arrive et qui vient secouer nos habitudes, et les domaines où on dit on est fort quand même, on connaît ça. J'aimerais vous montrer une diapo à travers quatre dessins que j'ai trouvés. Marrant, bon là c'est un peu les... Vous voyez pas leur tête, mais là ils sont en pleine tempête. Hein. C'est mes petits personnages, ils ont des têtes, ils sont extraordinaires. Mais on le voit pas trop bien, c'est dommage. On peut voir l'autre diapo. Voilà, ils sont toujours dans la tempête, en panique. Mais voilà, moi la diapo que j'ai beaucoup aimée dans ce livre-là. Alors on a monsieur ventomètre, vagomètre, coulomètre et panicomètre. Bon, vous avez, ils ont les degrés. Et là je pense qu'il y a eu la première étape. Ventomètre, ouais, ok, le vent se lève, ok, mais là il commence à être un peu plus... Là on commence à se prendre des grosses vagues dans la tête. Bah, là il commence à avoir beaucoup d'eau dans le bateau quand même. Hein. Et puis à la fin, ben, on panique. Hein. Mais ça peut être des étapes de notre vie aussi. L'épreuve arrive, la petite tempête arrive, bof, petit vent, on maîtrise. J'ai deux, trois astuces, deux, trois petits bricolages dans ma vie pour essayer qu'on s'en sorte. Puis bon, la vague commence à être un peu plus grosse. Puis là on commence à couler un peu, on ne voit plus trop bien. Puis à la fin, on est complètement comme ce petit personnage. Il écrit quoi là? Une grosse crise de panique. Ouais. Ah, il part en courant. Une chose est sûre dans ce texte, c'est que le contraste est saisissant entre les disciples qui sont impuissants, tandis que Jésus se repose tranquillement pendant que la tempête fait rage. Cette situation pleine danger pour les disciples ne l'est pas pour Jésus. Elle ne l'est absolument pas Jésus. Jésus s'inquiète à aucun moment. Lui, Jésus, il est en train de dormir à l'arrière du bateau, d'après les informations que nous donne Marc. Le texte nous dit dans Marc, je ne sais pas si c'est le prochain verset, « Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. » C'est intéressant quand même. Les autres sont en train de crier au secours, c'est le péril, c'est fini, on est mort. Panicomètre. Le texte nous dit, et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Alors, c'est quoi ce petit coussin? Apparemment, ça serait un coussin qui était mis à l'arrière du bateau quand il partait la nuit pour pêcher ou même en journée. Ceux qui ne travaillaient pas ou ne pêchaient pas, quand il y avait des rotations, ils avaient ce petit coussin pour se reposer. Donc Jésus, lui, il est là, en train de se reposer. La menace devient si grande que les disciples, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire, nous dit le texte? Eh bien, ça y est, ils disent, bon, on n'y arrive plus, on va quand même aller le réveiller. Hein. Verset 24, ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, maître, maître, nous périssons. L'urgence est indiquée par deux petits mots, maître, maître. Ils répètent ça. Ma question, c'est pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Pourquoi ils ont dû attendre? Pourquoi ils ont dû vraiment attendre d'être vraiment au moment de mourir là? Pourquoi quand le vent a commencé à se lever, ils n'ont pas commencé à aller chercher Jésus? Pourquoi quand les vagues ont commencé à être plus grosses, ils ne sont pas allés chercher Jésus? Pourquoi ils ont dû attendre qu'il y ait de l'eau, peut-être de ça dans le bateau, pour commencer à réveiller Jésus? Mais là, il y a peut-être une réponse, je ne sais pas si c'est la bonne réponse que j'ai mise. Ils ont dû se dire, on va y arriver, on est compétents, c'est notre domaine, pas Jésus. Ben non, Jésus c'est quoi? C'est un charpentier, c'est pas un pêcheur. Pas Jésus. Lui, à la limite, il sait peut-être fabriquer les bateaux, mais lui, il ne sait pas naviguer. Hein, on va pas aller le voir de suite, jusqu'au moment où ils prennent conscience qu'ils n'y arriveront pas. Donc ils s'agitent, hein, il y a de quoi. Et leurs paroles frôlent même l'arrogance dans Marc. Écoutez ce qu'ils disent dans Marc, je ne sais pas si on l'a là. S'étant réveillé, non, hop, je le mettrai après celui-là. Donc je ne l'ai pas noté, mais je vais vous le dire ce qu'ils disent. Ça ne te dérange pas de voir qu'on va mourir? Dans Marc, si vous allez voir, ils sont en train de réveiller. Oh, réveille-toi, tu vois pas qu'on est en train de mourir, ce serait bien que tu te, hein, que tu nous donnes un coup de main. Alors, j'arrive pas trop à comprendre cette phrase. En tout cas, une chose est sûre, ils ont besoin de Jésus. Celui qui disait, bon, le charpentier, lui, il va pas peut-être pouvoir nous aider. Ils sont peut-être en train de se dire, ah, mais peut-être que Jésus, il a déjà quand même chassé des démons. Il a déjà guéri un tel. Ah, on a quand même vu des miracles de sa part. Peut-être que c'est un moment d'aller le voir et de lui dire, Jésus, on a besoin de toi maintenant. Et ça, je pense que c'est qui est la chose la plus importante ici. C'est qu'à un moment donné, ils prennent conscience. On a besoin de Jésus. Jésus, il est appelé maître. Dans Marc, il est appelé enseignant. Et dans Matthieu, il est appelé Seigneur. Seigneur, interviens. Toi, notre enseignant, interviens. Toi, notre maître, interviens. Et là, mes amis, ce qui se passe, s'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent, c'est ça, il y a un grand calme. Donc Jésus se lève et prend les choses en main. Vous savez, Jésus, c'est intéressant, il ne leur explique pas le pourquoi du comment de la tempête. Il ne leur explique pas ça. Jésus, il n'a pas aidé ses amis à sortir l'eau du bateau. Jésus n'a pas aidé à ramer jusqu'à la rive. Jésus n'a pas parlé de suite aux disciples. Jésus, il a parlé à qui? Au vent et à la mer. Jésus, il ne fait pas de bricolage quand il intervient. Jésus est puissant quand il intervient. Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. C'est ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. En une parole, en une fraction de seconde, autant la tempête est arrivée soudaine, autant la parole de Jésus a été soudaine et tout s'est arrêté. La puissance de notre Seigneur, la puissance du roi des rois. Il ne bricole pas, lui. Il intervient puissamment. Il intervient puissamment. Juste deux petits mots en grec, même s'il y en a un peu plus en français, et tout est redevenu très calme. Marc précise quelque chose de très intéressant. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une méga tempête. Et bien, pour remontrer vraiment la puissance de Jésus, c'est le méga calme qui revient. La tempête cesse aussitôt et le calme revient. Et je reviens obligé avec mon petit dessin, j'ai trop aimé cette histoire. Et voilà, j'aime bien celui qui est là-haut avec son oiseau là. On ne les voit pas très bien, mais si vraiment vous avez l'occasion de vous rapprocher de leur visage, ils sont extraordinaires. On a rigolé avec ma femme pendant au moins 5-10 minutes sur chaque visage. Mais ça revient calme. En contraste avec la photo et le dessin que nous avons vu tout à l'heure. Un tel contrôle sur la nature est lié, bien sûr, dans l'Ancien Testament, vous le savez, à l'Éternel. Vous savez, Jésus, ce qui est beau dans cette histoire, c'est qu'il délivre et sauve les disciples. Parce qu'il les aime. Ça démontre encore la protection de Jésus sur ses enfants. Ça démontre aussi l'autorité de Jésus sur la création. Regardez un passage avec moi, je ne l'ai pas mis en note, mais parce qu'il m'est venu ce matin quand je relisais mes notes. Vous pouvez prendre Colossiens chapitre 1, verset 16. C'est un des plus beaux passages pour moi sur la divinité de Christ. En Colossiens chapitre 1, verset 16. Les disciples, ils ont peut-être senti qu'ils étaient seuls, mais Jésus veillait sur eux. Des fois, on a l'impression qu'on est un peu seul dans la tempête, mais c'est un mensonge. Jésus veille sur nous. Jésus est en train de veiller sur nous. Pourquoi ? Parce que 1 Colossiens 1, 16 nous dit « Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination et autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Puis arrive notre fameuse question, celle que je pense que les disciples n'auraient pas voulu entendre. Il leur dit, j'ai pris les trois, Matthieu, Marc et Luc, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Je ne sais même pas s'ils ont pu entendre ça, mais vu que le calme était revenu, ils ont dû mieux l'entendre. Et je pense que Jésus a attendu qu'il y ait le calme pour qu'ils entendent bien, que les vagues, que la mer ne fassent pas trop de bruit quand il allait leur poser cette question. Mais la question de Jésus n'a pas dû être très agréable à entendre. Je suis convaincu qu'il l'a fait avec beaucoup de délicatesse, mais elle n'a quand même pas dû être facile à entendre. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi paniquez-vous? Pourquoi stressez-vous? Pourquoi votre foi est quasi inexistante alors que je suis avec vous depuis un moment? Pourquoi cette incrédulité en la toute-puissance et suffisance de Dieu? Pourquoi vous en êtes encore là? Vous venez m'entendre prêcher des choses, je viens de vous expliquer des choses, à vous, en particulier aux disciples. Pourquoi ce manque de foi? Il faut juste comprendre une chose, c'est qu'ici le mot foi, ce n'est pas la foi initiale, celle qu'on retrouve, vous savez, dans Éphésiens qui dit « c'est par la foi que vous êtes sauvés », mais il est question de cette foi plutôt appliquée qui se démontre au milieu de la pression et dans des moments difficiles. Bien sûr qu'elle découle de la foi initiale, de la foi du salut, on est d'accord. Mais j'ai développé ça il y a quelques jours dans l'étude biblique. Mais les disciples auraient dû se reposer sur la capacité de Jésus à prendre soin d'eux. Ils avaient cette capacité de dire « on se repose en lui, on lui fait confiance ». C'est très facile derrière la chair de le prêcher, de dire ça alors qu'eux, ils devaient être en grande panique. Mais Dieu reste toujours aux commandes, même face au désastre, les amis. C'est une réalité de la vie. Dieu reste toujours aux commandes. Toujours. L'épreuve qu'ils ont vécue n'était pas à cause d'un péché. Le texte ne nous dit pas qu'ils ont vécu cette épreuve ou cette tempête à cause d'un péché ou d'une désobéissance qu'ils auraient commis. Non, la tempête n'est aucun lien avec un aspect de désobéissance ou une sorte de punition, comme certains pourraient penser, parce qu'ils ont péché. Non. Par contre, une chose est sûre, c'est que cette épreuve révèle leur état spirituel. Cette épreuve met en évidence dans leur vie une forme d'incrédulité. Si Jésus met le doigt sur le domaine de leur vie, c'est parce qu'il connaît leur cœur. Et quand on est dans la tempête, on n'a pas envie que quelqu'un nous mette face à notre incrédulité. On n'a pas envie que quelqu'un vienne. En plus, on est dans la souffrance, on est en train de vivre des choses dures. On n'a pas envie que quelqu'un vienne mettre le doigt sur ça. On n'a pas envie, personne n'a envie de ça, j'ai pas envie de ça. Ce manque de confiance en la puissance de Jésus, nous le reconnaissons rarement dans nos vies. Nous prenons à la légère ce manque de confiance en ce Christ qui est capable de tout. Et vous savez quoi, on demande rarement pardon à Jésus de ne pas lui faire confiance. Rarement j'entends des prières, rarement j'entends ma propre prière demander pardon à Dieu de ne pas lui faire confiance, à Jésus de ne pas lui faire confiance dans les moments difficiles, dans les moments où tout me dépasse. Il faut être conscient que ce manque de confiance, mes amis, est la source de nombreux péchés dans nos vies. Genèse 3, pour être un exemple, on pourrait le développer pendant quelques heures. Et cela peut devenir même un mode de vie. de plus faire confiance à Dieu et de ne pas lui demander pardon pour ce manque de confiance, et qu'il y a des péchés qui vont arriver dans notre vie, et des fois on n'arrive pas à régler ces péchés parce que la source, c'est ce manque de confiance, c'est cette incrédulité dans notre vie. Mes lèvres disent que Dieu est suffisant, mais mes réactions, mes pensées, mes solutions humaines démontrent que c'est un mensonge. Du coup, mon âme est troublée. Il faut se poser la question quand notre âme est troublée. Allez pas chercher des solutions. Posez-vous la question, pourquoi mon âme est troublée, avant d'aller chercher des solutions. Et ensuite, revenez en vous disant, est-ce que je ne manque pas de foi? Est-ce que je ne manque pas de confiance dans l'Éternel? Est-ce que je ne manque pas une pleine confiance en celui que je dis, que je chante, que je dis aux autres, que j'envoie des textos pour encourager les autres? Fais confiance à Dieu, à l'Éternel! Mais toi, ton âme, elle est troublée, elle ne va pas bien. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Au lieu de m'arrêter, Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de moi, je manque de confiance en toi. Je suis capable d'envoyer 3 textos, 3 psaumes à telle personne pour dire fais confiance à l'Éternel, alors que moi-même, je ne le suis pas en ce moment même. C'est au milieu des tempêtes que se mesure la solidité et la qualité de notre foi. Est-ce que Christ est suffisant? Est-ce que Christ est suffisant dans notre vie? Surtout que Jésus va leur démontrer qu'il n'a pas de quoi s'affoler. Je suis là. Je suis là. Cool. Tranquille. Et vous savez quoi? On a une assurance encore plus que les disciples. C'est que Jésus, avec la victoire sur la mort, la victoire sur le péché, nous donne une promesse magnifique à la fin de Matthieu. Je suis avec vous jusqu'à la fin. De manière terrestre, bien sûr, on va continuer avec lui dans l'éternité. Il est le seul, mes amis, à être capable de ramener le méga calme dans vos vies, dans ma vie. Si vous pensez d'une autre manière, ça ne va pas être très agréable ce que je vais vous dire, mais vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Il est le seul capable à ramener le plus grand calme dans votre vie, si votre vie est agitée, si votre vie est troublée, si vous êtes dans une tempête. Il est le seul capable à ça. Et il n'y a que la repentance des fois qui peut nous ouvrir les yeux. Je vous assure, il n'y a que la repentance des fois qui peut nous ouvrir les yeux. Pardon, Seigneur. Pardonne-moi. Pourtant, je suis quelqu'un de compétent dans mon domaine. Mais là, les vagues sont trop grandes. Pardonne-moi, il n'y a que toi. Et quand Jésus intervient, Jésus ne bricole pas. Jésus fait les choses à merveille. Tu es merveilleux dans quoi on a chanté? Et nous croyons cela? Nous croyons cela? Si nous croyons cela, nos vies devraient être très différentes. Vraiment. Ma vie devrait être différente. Quand je vois mes affolements, des fois, dans des situations, mais qui ne sont pas du tout comme des tempêtes comme celle-là, hein. Je minimise absolument pas la souffrance et les angoisses qu'ont eu ces hommes. Hein. Vraiment, parce que moi déjà, quand je monte sur un bateau et que ça bouge un peu, alors là, Seigneur Jésus, tu es merveilleux dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu fais, même dans les tempêtes. Tu es merveilleux et je place ma confiance en toi. Et tu es le seul capable d'apaiser mon cœur et mon âme dans ces moments-là. Quand Jésus intervient, cela peut aussi être effrayant. Et c'est la réponse des disciples, si vous regardez la suite de notre passage. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisie de frayeur et d'émerveillement. Vous avez peut-être le mot étonnement dans votre traduction, mais c'est l'idée d'être étonné. C'est un peu un paradoxe, la frayeur et l'émerveillement. Mais c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est quelque chose qui revient à d'autres endroits dans l'Écriture et notamment avec Luc. Hein, on peut regarder 2 passages dans Luc. Il a déjà fait se montrer ça, l'émerveillement, la crainte et l'émerveillement. Regardez Luc 1. Regardez Luc 1 avec moi, si vous avez vos Bibles. Regardez Luc 1, verset 63. Vous savez, c'est quand il fallait choisir le nom de Zacharie. Il dit, Zacharie demanda des tablettes, il écrivit Jean et son nom, et tous furent dans l'étonnement ou l'émerveillement. Et puis, si on arrive ensuite au verset 65, la crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et de toutes les montagnes de la Judée. Dans le même contexte, hein, on est juste à 2 versets qui d'écart. Et regardez la scène que vous connaissez peut-être le mieux avec les anges et les bergers, dans Luc chapitre 2. C'est pour vous dire que ce n'est pas un concept nouveau, cette notion de crainte et d'émerveillement. Luc 2, verset 9. « Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. » Il y a de quoi. Mais regardez avec moi le verset 18. « Tous ceux qui l'entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. » Donc, L'étonnement, encore ici, c'est l'émerveillement. Donc c'est quelque chose, c'est une pensée qui est dans l'Écriture, qui revient assez souvent. Des fois, il y a même d'autres versets où ils sont côte à côte. Et ici, Jésus, avec cette œuvre miraculeuse de calmer la mer en une seule parole, attire l'émerveillement de ces hommes, mais en même temps la crainte. Et la question, c'est qui est cet homme? De quelle nature est-il? La mer et le vent lui obéissent. C'est ce que le texte nous dit. Pourquoi il pose cette question? S'il pose cette question, c'est que ce n'est pas clair pour eux que Jésus est Dieu. Est-ce que Jésus était un pompier ou un super guérisseur pour eux? Peut-être. Ils n'avaient pas encore tout compris. Mais ce qui est intéressant dans notre passage, c'est que Luc, à aucun moment, donne une réponse en disant « il est Dieu ». Il dit juste, il termine cette histoire avec l'interrogation des disciples. « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui il lui obéisse ?» C'est une question à méditer en fin de compte. Mais ma question, c'est qui, en dehors de Dieu, peut contrôler la nature comme cela? Personne. Personne. Vous étiez juif ou grec à cette époque-là, tout le monde savait, même un païen savait, ou dans sa conception philosophique, disait, ben, celui qui maîtrise la nature, c'est un dieu. Soit le dieu d'Israël, soit le dieu auquel ils pouvaient adhérer, ces gens-là. Mais les disciples, ici, sont encore dans ce doute-là, jusqu'au chapitre 9, où nous allons voir Pierre qui va être face à Jésus et qui va dire « Tu es le Christ, tu es le Messie, tu es Dieu, tu es Dieu. » « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répondit « Le Christ de Dieu. » Chacun d'entre nous dans cette salle, nous avons tous reçu de nombreuses preuves de la présence et de la fidélité de Dieu dans nos vies. Je peux vous regarder chacun d'entre vous, la plupart d'entre vous je vous connais, d'autres un peu moins, mais je suis convaincu que vous êtes tous convaincus aussi de la fidélité de Dieu. Et quand la tempête, mes amis, a rempli son rôle dans nos vies, Jésus intervient et fait régner un grand calme. Mais il faut que la tempête ait produit quelque chose en nous. Et la tempête a produit quelque chose d'intéressant dans la vie des disciples. Elle leur a fait prendre conscience qu'ils manquaient de confiance en Dieu. Ils ont pris conscience, je pense aussi à un moment donné, mais nous sommes, peut-être maintenant, ils l'ont réalisé avec Dieu. Un auteur que j'apprécie a écrit ça, et je vais vous montrer ça en conclusion avec un passage biblique. Sans une christologie, donc c'est l'étude de toute la personne de Christ, hein, le mot christologie, sans une christologie qui reconnaît l'autorité de Jésus, il ne peut y avoir d'espérance réelle en lui. Sinon les vagues hostiles de la vie nous tireront vers le bas. Il n'y aura nulle part où se tourner. L'apaisement des vagues ne peut venir que de celui qui a le pouvoir de rétablir l'ordre. Je la trouve tellement pertinente, cette phrase, ou en tout cas ces phrases de cet homme. Et j'aimerais finir avec vous ce message avec un psaume. Je l'ai partagé l'autre soir à la réunion de prière. Le psaume 27, versets 23 jusqu'à 31. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillent sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux et descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Je vous encourage vraiment à méditer notre passage de ce matin et ce psaume pour vraiment que votre foi puisse grandir et tenir bon dans les moments d'adversité. Et gardez toujours en tête, Jésus est là, Jésus est suffisant. Jésus est tout-puissant. Amen.